dernier, va, qu'il te soit fait selon ta foi, et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. C'est pas de la foi, ça ? Il n'y a pas une démonstration de puissance particulière. C'est... Jésus, il n'a même pas touché son enfant. Quand il est rentré, il était guéri. Quelle foi ! La foi est liée à l'autorité. Le dimanche prochain, on aura un message sur ce que Jésus représentait en tant qu'autorité. L'autorité de Jésus suffit pour guérir. Amen. Alors la grande question, c'est quelle est la relation entre la foi et l'autorité ? Alors, je peux vous assurer que ce message, j'aurais pas pu vous le donner il y a encore quelques années, et surtout pas il y a 50 ans. Parce que ma foi a commencé il y a 50 ans, quand j'ai rencontré Jésus à l'âge de 20 ans. À l'époque, mai 68, vous avez entendu parler de mai 68, ceux qui n'étaient pas là, les jeunes, c'était un moment qui a marqué pas seulement l'histoire de France, mais l'histoire du monde entier, parce que la plupart des pays ont connu ça, en particulier les Américains, les États-Unis, le mouvement hippie dans les années 60. Ils ont commencé quelques années avant 68. Mais toute cette année 60 a été marquée par une crise d'autorité. En mai 68, j'étais en phase avec mon temps, hein, comme très souvent, en tant qu'adolescent, on épouse les pensées de son temps, surtout voilà, quand elles sont en accord avec un changement. Hein, mai 68, c'est un changement radical de société, au niveau de l'éthique, justement. On voulait balancer un peu tout ce qui est autorité. Hein. Dans les bouches de métro, c'est marqué « il est interdit d'interdire ». Voilà, c'était un slogan qui était répété et re-répété. J'étais en accord montant, mais pas dans l'anarchie. L'anarchie, c'est absence d'autorité. Non pas dans l'absence complète d'autorité, mais avec une idée de justice. Et tous les adolescents, et je les salue ce matin, vous avez raison d'avoir un idéal de justice, qui d'ailleurs est accompli en Jésus, justice parfaite, justice de Dieu à la croix qui a été accompli en Jésus. Donc j'avais un idéal d'égalité, de justice sociale. J'étais à la limite de l'objection de conscience, que j'étais pas loin de faire, mais en tout cas antimilitariste, convaincu, et j'ai tout fait pour pas aller à l'armée, ce qui fait que j'ai fait la coopération et j'ai vécu 2 ans à Montréal, au Canada, avec Michel, que j'ai marié juste avant de partir. Et j'ai passé 2 jours à la caserne, juste pour les formalités de santé. J'étais très content. Moi, j'étais engagé dans les mouvements comme par exemple la FAO, la faim dans le monde. J'organisais des bols de riz pour les gens. J'allais dans les taudis quand j'étais à Chalon pour refaire dans les lieux très très sales de la ville, etc., etc. Je voulais participer à la paix et la justice sociale dans le monde. Et ensuite, après, j'ai découvert Jésus. J'ai compris que lui, il était encore plus dans la justice que moi. Et pour rien au monde, à l'époque, je voulais entendre parler de chef. Chef, ah, chef. Non, je ne voulais pas entendre parler de ça. Donc j'avais une vision, qu'on appelle une vision du monde, paradigme, qui m'a conduit par la suite, à partir de cette expérience, à expérimenter des situations d'injustice qui m'ont ouvert les yeux sur la nécessité d'avoir des chefs. Et une hiérarchie d'autorité à l'instar du centenier. Voyez-vous ? À l'époque, le centenier, pour moi, j'étais à l'autre bout. Et du coup, la foi aussi, empathie, hein, puisque la foi est liée à l'autorité. Donc, Ceci explique peut-être cela, hein. Je ne suis pas en train de faire une analyse sur la société, savoir si la foi a diminué avec la perte d'autorité. Toujours est-il que c'est vrai que moi qui étais dans l'église catholique à l'époque, c'est à ce moment-là que je me suis converti, bah, l'église était remplie, il y avait 1000 personnes tous les dimanches, et puis en quelques années, il n'y avait plus que les bonnes sœurs devant. Dans les 1000, il restait les bonnes sœurs qui étaient obligées d'y aller à la messe, donc une vingtaine, et puis quelques personnes en plus, quoi. Parce que comme j'étais servant de messe, je voyais bien ce qui se passait. Vous voyez, donc on déserte toute autorité, compris l'autorité institutionnelle, qui à l'époque était l'Église catholique, mais aussi d'autres institutions. Donc cette vision que j'avais, pas de chef, pas d'autorité, non pas, comme je l'ai dit, en anarchie, mais à cause des exagérations et de l'autoritarisme en particulier. Mon père était très sévère, mon grand-père encore plus, hein, il venait d'Allemagne, et vous savez, ça rigole pas. Hein, les Allemands, c'est... quand j'ai dit, hein. D'ailleurs, on se moquait, enfin, les Alsaciens, vous gardez pour vous, on se moquait des Français de l'intérieur, hein, où ma mère souvent disait, vous voyez, quand on veut faire descendre un petit garçon ou une petite fille d'un mur, les Français disent, je te donne un sou si tu descends. Les Alsaciens, ils la descendent, puis une bonne raclée, quoi. Et on discute pas, quoi. Hein, bon, c'est, vous voyez, on se moquait de ça parce que, voilà, on disait que c'est, voilà, les Français de l'intérieur sont très laxistes. Donc, j'étais éduqué, de manière très ferme, hein, très, très rigoureux, comme à l'allemande. Bon, il y a aussi des Allemands qui sont, surtout maintenant, laxistes. Mon frère, il donne des... il a des élèves allemands, ils sont pires que les Français. Mais tout ça, ça se perd aussi. Donc cette vision qui m'animait m'a conduit à expérimenter des situations d'injustice alors que je cherchais la justice. D'injustice qui m'ont ouvert les yeux sur cette nécessité d'une hiérarchie d'autorité, à l'instar du centenier, comme on vient de le lire. Et Ricardo, entre autres, qui est utilisé par Dieu pour m'aider dans la reconstruction de l'Église à l'époque, en 98, m'a appris cette devise que vous connaissez tous, clarté, droit, autorité. Clarté, droit, autorité. On fait la clarté, quand il y a quelque chose qui est trouble, on fait la clarté, comme ça on voit mieux les choses. On établit le droit. Et ça conduit à l'autorité. Donc c'est un rétablissement de l'autorité par la clarté et le droit. Ce que j'ai appris est ce qui fait partie de la vision de base de cette Église. Et si Dieu m'établit en autorité, il fallait... autre chose que j'ai appris, c'est l'image de ce qui s'est passé au moment où Moïse a confronté Pharaon, où Dieu lui a demandé de sortir le peuple de l'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Moïse a dû confronter le pharaon auquel il était asservi. Il était le premier ministre du pharaon à l'époque, donc c'est pas évident, hein, de retrouver son autorité de l'époque. Mais il y est allé avec un but, qui était de sortir son peuple. Et là, il a dû se confronter à l'autorité du pharaon. Et il y a une image qui m'a été enseignée par des serviteurs de Dieu à l'époque, c'est de dire que quand on a l'autorité, quand on est placé en autorité, on a un bâton d'autorité, hein, le sceptre, hein, qui représente le bâton de l'autorité. Il ne faut jamais le lâcher. Si vous lâchez le bâton d'autorité qui vous est donné par la fonction que vous occupez, il se transforme en serpent et il vous mord. Et ça, c'est l'esprit d'Isabel qui directement... Vous voyez, Akab, par exemple, il a laissé le bâton d'autorité à Jézabel, sa femme, et vous avez vu ce que ça donne. Hein, il était coupable, au même titre, parce que Jézabel a utilisé une autorité illégitime, il a signé en son nom, il a parlé en son nom, il a dit, « Oh, toi, tu vas voir, moi j'y arrive. Naboth, tu vas l'avoir. » Et effectivement, il l'a eu. Il a zigouillé Naboth, et il a pris son champ et l'a donné à son mari. Voilà. Donc, il faut jamais lâcher le bâton qui est l'autorité là, qui a été reçue, sinon il se transforme en serpent. Et ça, pour moi, c'était absolument impossible dans l'esprit de 68 que j'avais, où l'autorité est pas bonne. Et en consultant cet ouvrage, je crois que c'est Philippe qui l'a proposé à Olivier, je crois. Je l'ai parcouru pour ce message ce matin. Il s'appelle donc Pierre de Villiers, hein, qui est le frère de Philippe qui a fait le Puy du Fou. Et lui, il était général d'armée, un chef d'état-major des armées en France. Et il a écrit ce livre « Qu'est-ce qu'un chef ?» Ça vous choque ? Quels sont ceux qui sont choqués par le mot « chef » encore ? Soyez naturel. Hein. Moi, j'étais choqué, moi j'aurais levé la main. Non ? Ah bon, bah, c'est super. Donc j'arrête le message, vous avez tout compris sur le chef. Le chef. C'est vrai qu'il y a des chefs cuisiniers, il y a des chefs, voilà. Mais qu'est-ce qu'un chef ? Et à partir du moment où il a arrêté son activité de général, on lui a poussé à écrire ce livre pour qu'il puisse dire pour lui ce que c'est qu'un chef. Et en fait, c'est le centenier romain d'aujourd'hui. Il est même plus que centenier, puisque centenier c'est 100, et lui je ne sais pas combien de milliers de personnes qu'il avait sous ses ordres. Donc c'est un général, un chef d'armée qui parle de l'autorité. Et en consultant ce livre, dont je vous en parlerai un petit peu, vous pouvez lire pendant vos vacances, j'y vois de nombreux parallélismes avec l'enseignement de Jésus sur le chef. Jésus a beaucoup parlé du chef. Il a dit, ne soyez pas comme ceux du monde, en parlant de ses disciples, qui sont des chefs qui vous tyrannisent, mais soyez au service. Donc il y a la notion de serviteur, et lui, il n'arrête pas de parler de service. Voilà. Donc on a déjà une très grande identité entre l'enseignement de Jésus et ce qu'il dit. Aujourd'hui, j'assume cette appellation de chef, malgré moi, vous voyez, j'y suis arrivé en refusant le terme mais en faisant la fonction. Et là, sur le tableau, voilà, on m'a demandé de clarifier quelles sont mes fonctions à l'arrivée de Pierre-André, qui va prendre le poste de pasteur opérationnel. Bon, aujourd'hui, je l'occupe. Ceux qui ne le savent pas, j'ai au moins trois casquettes. J'ai la casquette de pasteur, qui est d'édifié l'Église selon les Écritures, qui est ancien, pasteur principal, ancien comme qui préside l'Assemblée dans ses règles de fonctionnement, parce qu'une Assemblée a besoin de fonctionner avec des règles. Donc je le préside et je tiens la vision de cette présidence, parce que c'est ce qu'il dit d'ailleurs. Si on n'a pas de vision, on fait de la tactique. Hein. La tactique, c'est le ballon. Hein. Donc on évite toujours le ballon. Hein. Le problème, c'est que je peux éviter le ballon pendant tout un match et pas jamais tirer. Hein. L'idée, c'est quand même d'aller au but. Donc ça, c'est la stratégie. La stratégie, c'est de savoir comment on arrive à faire un but. La tactique, c'est éviter l'adversaire pour arriver à ses fins. Vous voyez ? Donc c'est deux choses différentes. La tactique, c'est instantané. La stratégie, c'est long terme. Et donc j'ai la stratégie aussi en charge. Et pasteur opérationnel, diriger les ministères. Donc ça me sera enlevé avec beaucoup de plaisir. Parce que c'est aussi une très grande charge que je fais très mal. Je le reconnais parce que je ne peux pas être partout. Vous voyez ? Je ne peux pas être partout, je ne peux pas vous visiter toutes les semaines, je peux pas, enfin, etc. Opérationnel, ça veut dire, voilà, il faut beaucoup d'énergie, ce que j'ai de moins en moins, donc voilà, c'est normal que ce soit un jeune qui reprenne. Voilà, donc je pense que vous avez compris, sinon vous avez toutes les charges qui me resteront encore d'ici un an, puisque ça ne se fera pas avant un an, mais qui montrent des positions d'autorité. Tout à l'heure, j'ai bien aimé, il y a eu deux témoignages, l'un de Emmanuel, et puis l'autre, je ne sais plus qui, Maggie, qui ont remercié le Seigneur pour des nouveaux postes. Vous avez entendu ? Des nouveaux postes. C'est des charges, c'est des offices, c'est pareil. C'est une position d'autorité qu'ils auront parce qu'ils ont une responsabilité. D'ailleurs, office, si vous regardez Wikipédia, c'est une charge qu'un souverain vous donne. à l'époque, quand il y avait la monarchie, donc on était sous la monarchie en France, eh bien, le souverain vous donnait un office, c'est-à-dire une charge. Donc vous aviez une responsabilité, mais aussi un honneur d'une charge seigneuriale. Voyez-vous, c'est le seigneur qui se dessaisissait d'une charge pour la donner. Donc ça, c'est un office. Office notarial, d'ailleurs, tous les offices que vous avez. C'est encore une résurgence de cet ancien régime. Ça remonte à l'ancien régime. Voilà. Donc vous voyez, on est entouré autour de nous de cette capacité, de cette notion d'autorité qui prend différents noms, office, etc. Et donc, tout à l'heure, dans ce témoignage, c'était de remercier le Seigneur pour une position d'autorité. C'est une position d'autorité. Emmanuel aura un chef au-dessus, Maggie aussi, et il aura quelque chose à diriger, des enfants, des services, etc. Vous voyez. Donc, l'autorité se trouve toujours en sandwich entre une autorité supérieure et une autorité inférieure. Et c'est ce que le centenier a compris. Il a compris que Jésus, il accomplissait des miracles, et lui croyait que ces miracles venaient de Dieu, parce que personne ne peut faire des choses comme ça, sinon ça se saurait. Depuis 450 ans, les Juifs attendaient qu'il se passe quelque chose dans leur pays, et c'est rien passé. Et là, d'un seul coup, paf, les démons sont chassés, les maladies sont guéries, etc. Lui, il a entendu. Et il a dit, c'est une position d'autorité. C'est-à-dire qu'il reçoit quelque part une autorité auquel il se soumet, et ça lui permet de faire des choses. Ce sera le message de dimanche prochain concernant l'action de Jésus. Et il a dit, mais je veux être au bénéfice de cette autorité. Et du coup, il s'est soumis au Seigneur et qui lui a répondu en guérissant son serviteur. L'autorité, la Bible dit que toute autorité vient de... Encore une fois, toute autorité... Voilà. Donc, merci. Je vois que je suis entouré de gens qui connaissent la parole. Ça, c'est un fondement. On appelle ça un fondement théologique. C'est-à-dire, on ne remet plus en question. Toute autorité vient de Dieu. Donc, à partir de là, vous pouvez décliner toutes les situations que vous rencontrez. Toute autorité vient de Dieu. Donc, une fois que ça s'est posé, comme Dieu est trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit, on peut dire que Dieu le Père détient l'autorité d'initiateur, d'initier toute chose. Il est souverain et il exerce l'autorité absolue, l'autorité suprême. Christ, qui est fils, qui est soumis au Père, il est au-dessus de tout nom. C'est quoi le nom? Ça veut dire quoi le nom? Vous voyez, il faut qu'il y ait dans votre tête comme ça des schémas tout directs. Le nom, c'est dans Genèse. Dieu a dit, tu nommeras les animaux. C'est-à-dire que l'homme est au-dessus de la création. C'est un peu le couronnement de la création, si vous voulez. Donc le nom, ça veut dire attribuer, c'est une autorité. Vous voyez, le tigre, il ne donne pas le nom au lion. C'est l'homme qui a dit, ça c'est un lion, c'est un tigre. Mais le tigre, il nomme pas la... Vous voyez. Donc le nom, c'est quand Jésus est au-dessus de tout nom, ça veut dire qu'il est en autorité sur toute création que le Père a initiée. C'est lui qui est l'autorité de la création, une autorité absolue sur la création. Et l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il a comme autorité? Quelle est sa fonction d'autorité, l'Esprit Saint? Il y en a plusieurs, d'ailleurs. Bah, vous le savez, vous êtes au bénéfice de l'Esprit Saint, non? Quand vous avez reçu Jésus, vous avez reçu le Saint-Esprit? C'est par le Saint-Esprit que vous pouvez dire « Abba, Père », non? Bon. Donc, le Saint-Esprit a l'autorité de remplacer Jésus en vous, dans votre vie, vous pouvez dire Christ en moi, l'espérance de la gloire. Il remplace Jésus, c'est une autorité. C'est important. Aujourd'hui, c'est le règne de Dieu qui est en nous, par lequel nous pouvons régner. Il a aussi l'autorité sur l'inspiration des Écritures, non? Qu'est-ce qui a inspiré les Écritures? Voilà. Donc les Écritures sont l'autorité du Saint-Esprit. Alors, vous voyez, c'est très simple la théologie. Il suffit d'être cohérent et partir des affirmations bibliques. Donc on a déjà trois autorités qui exercent ensemble, bien sûr, dans la Trinité. Le Père initiateur, souverain, le Fils qui est au-dessus de toute création, c'est Colossiens, tout le livre de Colossiens, l'épître aux Colossiens. Et le Saint-Esprit qui fait autorité dans nos vies et qui est l'autorité en matière d'inspiration des Écritures. Donc si nous sommes soumis aux Écritures, nous sommes soumis à l'autorité. Vous voyez, c'est pour ça que Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. La Bible émanant entièrement de Dieu, exprimant la pensée même de Dieu, est revêtue de son autorité. La parole de Dieu qui est la vérité pour tous les temps. Et l'Église devrait être la colonne et l'appui de la vérité. Alors l'autorité aujourd'hui est mise à mal. Elle est mise à mal parce qu'elle a mauvaise presse et aussi parce qu'il y a eu des mauvaises autorités. Parce que vous voyez, le mot autorité, c'est une charge, mais on l'attribue aussi à la personne qui exerce l'autorité. C'est pour ça qu'il y a une confusion. Il faut bien séparer les choses, mais parfois il y a le mot qui utilise la personne, l'individu qui exerce l'autorité. Et surtout dans un cadre d'autoritarisme. L'autoritarisme, c'est à nouveau une idole. Et tout à l'heure, j'ai dit, il faut se méfier des idoles. C'est, on aime l'autorité, donc ça devient une idole. Donc c'est plus un service, c'est un narcissisme de la personne qui est... D'ailleurs, dans la voiture, on en parlait avec Michel, que dans les pays du Sud, il y a un gros problème avec l'autorité, parce que les hommes sont assez machistes, hein, peut-être un peu plus qu'ailleurs, l'honneur, le machisme et tout ça, voilà. Et du coup, ça aide pas à passer une bonne autorité, vous voyez. Quand on commence à considérer sa femme comme son objet, etc., voilà, l'autorité en prend un coup, voilà, la notion d'autorité. La perte d'autonomie, alors, la perte de l'autorité dans notre société qu'on appelle post-moderne, c'est bien sûr à cause de l'individualisme généralisé, chacun pour soi, donc il n'y a plus d'autorité, c'est chacun son autorité. Mais aussi de l'enfant roi. On parle beaucoup d'enfant roi, ouais, un enfant unique, est tellement unique que c'est lui qui fait la loi. Mais la perte de l'autorité est synonyme de désorganisation et de chaos. C'est ça que j'ai appris par ce livre de Pierre de Villiers, qui, à la page 17, dit « L'autorité n'est pas spécifiquement militaire. C'est le lien fondamental de toute société humaine. Certes, l'armée lui donne une forme et une expression particulière. Les civils ne saluent pas leurs supérieurs comme les militaires. Pour autant, notre société est hiérarchisée et nous respectons les individus dans la place qu'ils occupent. Les valeurs qu'ils représentent, leur manière de se conduire, c'est vrai de l'école maternelle à l'exercice des plus hautes fonctions. Et lorsque l'autorité perd ses repères, alors la société est fragilisée. Allô ? Vous croyez à ça ? Moi, j'y croyais pas. Hein. La hiérarchie, vous savez, hiérarchie. Et là, il parle de hiérarchie, d'autorité. C'est-à-dire l'autorité est hiérarchique. Vous voyez ? Allô ? C'est le bazar. Chacun veut être un chef. Voilà. Voilà. Oui.
En révolte. Proverbe 28, 2. Quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux.
Ça illustre ça. Fabien Tesca, qui était du Congo, qui était membre de l'Église, il disait qu'à une période, je ne me rappelle plus quelle période, il n'y avait plus de chefs, il n'y avait plus de gouvernement, il n'y avait plus rien. Quoi. Il a dit c'était l'horreur absolue. Il n'a jamais connu ça. Il y a des viols. Il y a eu les gens rentrés dans les maisons. Ils violaient, ils volaient tout, ils saccageaient tout, etc. Mais voilà, c'est l'être humain. Okay, moi, mon propre patron qui habite en Vendée, non pas en Vendée, enfin La Rochelle, je ne sais plus, c'est la Vendée, quand il y a eu les arbres qui sont tombés chez lui, les chênes de 200 ans qui sont abattus, le dimanche, il allait là-bas parce qu'il était à Bordeaux et il remettait tout en place et il voyait des gars qui venaient, qui déménageaient tout chez lui. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Je suis chez moi. Parce que lui, il était en bleu, quoi, de travail. Donc il pensait que tout le monde déménageait. Hop, il vandalisait sa maison, quoi. Et devant lui, quoi. Ouais, il arrivait. Ouais. Voilà. Oui, quand il n'y a plus d'autorité, voilà ce qui se passe. L'absence d'autorité amène le chaos. Et il a tout à fait raison de préciser cela. Le retour de l'autorité, c'est un gage de structuration et d'ordre social et aussi ecclésial. le retour à l'autorité structure la communauté. Et ce sera d'ailleurs le sous-titre de l'œuvre que David Alonso m'a demandé de rédiger. Ce sera le sous-titre « Le retour de l'autorité ». Parce que clarté, droit, autorité a été 50 années de ma vie de 68 à 2019 pour comprendre enfin que l'autorité est absolument indispensable, mais la bonne autorité. Alors la véritable autorité, les gens et surtout les chefs religieux de l'époque auxquels Jésus faisait ombrage, puisque eux ils voulaient être les chefs. Bon, et là il y a un nouveau chef qui vient, c'est Jésus. Bon. Le problème c'est que Jésus avait autorité sur les maladies, les démons, et eux ils n'avaient pas du tout cette autorité-là. Ils avaient l'autorité sur la tchatch. Hein, tchatch. Tchatch. Vous connaissez la tchatch, voilà. Rien derrière, quoi. Voilà, il faut faire ça, il y a cas, faucon, ceci, cela, etc. Alors là, ils étaient super, hein, les pharisiens, sadducéens, la tchatch. Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Hein, vous voyez, la tchatch, ça. Bon. C'est pas d'autorité, c'est du bidon, ça. Hein. C'est ce qu'il appelle des petits chefs. Les petits chefs, hein. Les petits chefs, oui. Mais c'est les grands, il parle des grands chefs qui ont l'autorité. Les petits chefs, ils vous disent ce que vous devez faire, mais eux, regardez un petit peu, rien. Ok. Ça, c'est pas de l'autorité. Ouais. Ça, c'est une déviance, c'est de l'autoritarisme, ça. Ils ont demandé à Jésus, mais par quelle autorité fais-tu cela? Quand ils voyaient Jésus faire, mais quelle est ton autorité? Par quelle autorité tu fais ça? Mais quelle question? Ouais, ils voulaient savoir, voilà. Mais Jésus, il est pas fou, hein. Vous voyez très bien ce qu'il y avait dans le cœur. Jésus voit dans le cœur. Il savait pourquoi il posait cette question. Et la Bible dit, et moi j'ai appris ça aussi, dans le Proverbe, il dit, ne parle pas à un sot. Et ça, ce sont des sots. Et moi, j'ai beaucoup dû apprendre que j'ai des sots en face de moi. Alors, vous ne vous sentez pas visé, mais il y a beaucoup de sots. Et il a dit, ne parle pas à un sot. Tu peux y parler, hein. Mais je veux dire, voilà. Mais parle à un sage parce qu'il t'écoutera. Le sot, il t'écoutera pas. Parce qu'il veut avoir raison. Dès le départ, il ouvre la bouche, il veut avoir raison. Et là, il voulait avoir raison. Mais quelle autorité? Quelle est l'autorité légitime qui te permet de faire ça? Vous vous rendez compte? Eux qui font rien, ils cherchent des noises à Jésus et lui demandent de quelle autorité il fait ça. Ben, Jésus les coince. Il ne répond pas directement. Il répond par une boutade. Il prend l'autorité de Jean-Baptiste, qui était populaire. Hein, et il savait que ces grands petits chefs, ils n'aimaient pas trop le peuple. Déjà, ils mépris du peuple. Mais en plus, ils ne l'aimaient pas parce qu'ils savaient que si le peuple se retournait contre eux, ils ne seraient plus chefs. Hein. Voilà. Donc ils avaient peur. Vous voyez, un petit chef, il a peur de sa position. Un grand chef, il n'a pas peur. Moi, je n'ai pas peur d'autorité que j'ai. C'est Dieu qui me l'a donné. Donc, n'importe qui peut venir, je veux dire, ben, vois avec le Seigneur, vois avec Dieu. C'est lui qui m'a donné l'autorité. Vous voyez, mais ça, j'ai mis 50 ans à le comprendre. 50 ans à comprendre que quand vous recevez une autorité qui vient de Dieu, eh bien, il faut exercer l'autorité. Il faut garder le bâton. Non pas pour taper, mais pour dire, tu t'adresses à Dieu si tu as un problème. Vous voyez, c'est pas moi. Parce que je suis élu de Dieu. Et ce n'est pas de la prétention, c'est une réalité. Donc, de quelle autorité fais-tu ces choses? Pour nous, la réponse est claire, l'autorité de Jésus est celle de Dieu. Mais pour ses contemporains, ce n'était pas évident. Ils aimeraient soit qu'ils se taisent et retombent dans l'anonymat, soit qu'ils puissent se révéler d'une autorité reconnue. Et Jésus va prendre Jean-Baptiste. Il était reconnu par le peuple, la foule, mais il ne l'avait malgré tout pas suivi. Vous voyez, on peut être aimé d'une foule et pas être suivi. Jésus se réfère-t-il pour autant à Jean-Baptiste comme l'autorité qui l'autorise? Non. Il se réfère à Jean-Baptiste pour montrer à ses contradicteurs où se trouvent leurs contradictions. Il cherche une autorité et quand il s'en présente une, il ne l'accueille pas. Jean-Baptiste, ils ne l'ont pas accueilli alors que c'est une autorité. Et Jésus, maintenant, il veut connaître son autorité. C'est ça, là, d'une part les narcisses, les narcissiques, les gens qui sont centrés sur eux, et d'autre part ceux qui sont malveillants. Ils n'ont pas écouté le prophète en son temps. Ils n'ont pas osé lui répondre que l'autorité de Jean-Baptiste ne venait pas du ciel parce qu'ils savaient que la foule, il l'aurait contre eux. Et je crois que c'est important, et là j'aime bien cette conclusion suite à cette intervention sur Jean-Baptiste, c'est à chacun de discerner ce qui s'impose à son propre cœur, comme les prostituées et les exploiteurs publics qui l'ont fait, eux qui se sont convertis en écoutant Jean-Baptiste. Les prostituées, tous les gens de mauvaise vie, ils ont écouté Jean-Baptiste qui leur a dit « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Et quand Jésus est venu, ces mêmes prostituées, ces mêmes, eh bien, ils étaient le cœur préparé à recevoir l'autorité de Jésus, qui était supérieure à celle de Jean-Baptiste. Okay ? Mais si on ne veut pas reconnaître une autorité, on cherche tous les moyens pour contester celui qui est en autorité sous prétexte qu'il ne l'a pas ou qu'il l'a de quelqu'un d'autre. C'est tout. Et donc c'est ça la problématique. Et dans l'Église, il importe de percevoir la réception. C'est pour ça que dans une Église, il faut que les autorités qui sont en place, il faut qu'elles soient acceptées librement, pas sous contrainte. Et si le pasteur, par exemple, c'est beaucoup les ADD, bon, je les cite parce que tout le monde sait un petit peu, maintenant ils sont en train de changer, hein. Donc c'est surtout dans le passé, qui s'impose comme autorité, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que ça peut durer un temps, hein, surtout si le pasteur fait des miracles, etc. Voilà, on l'accepte parce qu'il vient d'en haut, etc. Il en fait plus, c'est fini. Hein. Voilà. Donc après, on retrouve l'autoritarisme. Ah, vous devez, etc. Dans une église, comme d'ailleurs le dit aussi Philippe de Lhuillier, il faut que l'autorité soit acceptée de manière consentie. Et quand c'est consenti, on se soumet librement. Ou pas, mais on se soumet dans la liberté. Et c'est là la réelle autorité. Jésus voulait être accepté librement, tel qu'il était, ce qu'il était, que ce soit par les Juifs ou le centenier qui était un Romain, qui était un païen, accepté librement. Et c'est aussi accepter les vérités de la doctrine. Le pasteur n'est pas infaillible dans tout ce qu'il dit, mais il l'est lorsqu'il proclame la vérité de l'Évangile. Ce que la saine doctrine, la saine tradition rapporte, d'où ma référence à la théologie de l'Ade. Et je vous encourage pendant ces vacances à la lire, ceux qui ont acheté le livre, pas simplement, parce que moi je fais que commenter, donner des clés de lecture que moi j'ai trouvées pour simplifier un peu la lecture, parce que c'est vrai que sans être un livre très difficile à lire en théologie, c'est quand même de la théologie. C'est-à-dire qu'il parle d'autres interprétations possibles, et il montre l'incohérence. C'est juste l'incohérence. Et lui essaie d'amener la cohérence dans l'ensemble des versets qui sont très nombreux sur un sujet, sur un thème donné. Donc moi, quand je parle de la parole de Dieu, j'essaie, moi, de me référer à quelqu'un qui a autorité. Or, le professeur Ladd est reconnu comme étant la doctrine évangélique. Il n'y en avait pas avant, lui. Il n'y en avait pas. Il y avait les doctrines réformées, les doctrines luthériennes, les doctrines méthodistes, les doctrines, toute la doctrine. Mais lui, Dieu l'a utilisé pour écrire une exégèse, une analyse du texte qui donne à l'écriture une parfaite cohérence sur le royaume. C'est pour ça que je vous invite à lire, parce qu'elle fait autorité. Non, si vous voulez d'autres autorités, c'est vous qui choisissez. Oui. Mais moi, je ne me présente pas. Moi, je ne suis pas théologien. Mais c'est vrai que le Seigneur m'a permis, depuis 1974, de lire ce qui me donne cette cohérence dans l'analyse du texte. Elle n'est pas parfaite, ma cohérence. Il y a encore beaucoup de mystères. Mais plus important, c'est d'être en cohérence sur l'essentiel. Le mot autorité vient du latin auctoritas, qui signifie ce qui donne confiance à l'autre en lui permettant de devenir acteur de sa vie. Et ça, Jack Efford, avec Michel, on a été au bénéfice de son enseignement trois fois, je crois, je ne m'en rappelle déjà plus. Et il disait ça, il disait, écoutez, ne cherchez pas la croissance de l'Église. Bon, lui, bien sûr, il a une grande église, il est à Los Angeles, mais il parlait à des pasteurs qui, au plein milieu des États-Unis, des fois, ils ont 10 personnes. 10 personnes. Il a dit, ne cherchez pas la croissance, ne cherchez pas le nombre, mais ceux qui vous sont confiés par Dieu, occupez-vous chacun personnellement pour les faire entrer dans leur destinée. Voilà le message de Jack Efford. Et c'est ça, c'est l'autorité. Lui, il a compris ce que c'est que l'autorité et il transmettait ce message à ceux qui l'enseignaient, les autres pasteurs, pour leur dire, pour que votre autorité soit celle de Dieu, eh bien, donnez confiance à l'autre en lui permettant de devenir acteur de sa vie. Non pas lui dire ce qu'il faut faire. Voyez, c'est pour ça l'éthique, moi je suis très à cheval sur... la théologie, c'est Georges Lannes, donc c'est l'autorité. L'éthique, voilà, chacun doit cheminer dans sa conscience à faire les bons choix. Et ça, bien sûr, j'ai mon mot à dire, mais je n'ai pas autorité dans votre vie à prendre les décisions d'éthique. Voyez. Donc il faut savoir quelles sont les limites à notre autorité. Mon autorité de pasteur principal, je la comprends comme me permettant de conduire la prochaine génération à devenir acteur de la suite de cette église, de l'œuvre de cette église, et continuer à marcher vers son devenir, qui sont d'avoir des familles dans la dignité et l'excellence, d'avoir une église accueillante et dynamique, d'avoir une école de formation pratique, d'influencer la société sur les valeurs chrétiennes et d'être présent dans la société pour l'impacter avec les valeurs du royaume. C'est ça, le but. Et j'ai pu apprendre, donc toutes les leçons que j'ai pu apprendre se trouvent contenues dans la vision, paradigme qu'on m'a demandé d'écrire au travers de David Alonso. Ça, c'est les représentations que j'ai qui me permettent globalement d'atteindre cet objectif au niveau stratégique. Donc, je dois former des chefs. C'est clair. Moi, en tant que chef, je dois former des chefs. Ça vous choque? Voilà. C'est ça que ça veut dire. Les chefs, c'est les têtes. C'est la tête. La tête, c'est lui qui dirige. Vous avez tous une tête qui vous dirige? Ou c'est vos jambes qui vous dirigent? Ou c'est quoi qui vous dirige? C'est votre tête. Donc la tête, c'est le chef. Le chef, c'est Capitus, c'est la tête. Donc on doit tous être des chefs et devenir des chefs. Le premier chef de l'Église, c'est Jésus. Qui est le chef de l'homme dans le mariage? Allô? Répétez-le. Christ est le chef de l'homme, et l'homme est le chef de la femme. Ah là, c'est dur, hein? Ah, on le redit. Ben, c'est la parole, hein? L'autorité de la parole, c'est le moment, hein? Ok. Ou alors, vous arrachez la page, Éphésiens 5, voilà. Non, mais. C'est pas un problème. À la fin, vous aurez plus que quelques pages, c'est plus facile à lire la Bible, hein, si vous arrachez. Hein? Christ est le chef de l'homme, et l'homme est le... Ah, c'est dur. C'est dur, hein. Ah, j'avais une professeure d'université de sociologie qui m'attaquait là-dessus, à peine j'étais arrivé chez Julie. Elle était cohérente. Donc je dis, vous avez lu la suite? Ah, il y a une suite? Je dis, bah oui. Parce qu'une fois que Paul a dit ça, hein, il a dit, le mari, l'homme, doit donner sa vie pour sa femme. Alors? Elle a dit, ah! Alors là, elle était scotchée. Et là, il a changé d'avis, il a dit, oui, vous avez raison. Le chef de la femme, mais qui doit donner sa vie à sa femme. C'est pas marqué que la femme doit donner sa vie, c'est l'homme. Ça veut dire quoi? C'est une responsabilité. C'est un martyr, il doit être un martyr. Allô? Bon, alors j'arrête là, c'est un autre sujet, hein, parce que sinon je vais être mal compris. Surtout par les personnes qui ont été un peu molestées par leur mari. Je peux comprendre, mais c'est comme l'autonomie, hein, il y a la science et puis ce qu'on en fait. Voilà. Donc, voilà, ça c'est ensuite après. On va rentrer dans d'autres prédications là-dessus. Pierre de Villiers, qui dit à la page, j'aime bien son humilité, à la page, je vais vous donner la page, voilà. Mais lisez-le, c'est très facile, en plus c'est écrit en très gros caractères. Je ne suis ni philosophe, je ne suis ni ethnologue, ni sociologue, ni historien, ni grand capitaine de l'industrie. Je suis un praticien de l'autorité. Wow. Praticien de l'autorité. Qui s'est toujours efforcé de placer les relations humaines au cœur de son engagement au service de la France et des armées. Voilà, donc c'est un praticien de l'autorité, et il a autorité à la matière, nous parler d'autorité. Comme le centenier a compris l'autorité de Jésus. Hello? Donc j'ai parcouru un peu ce livre et j'ai compris, au travers de son enseignement, que l'autorité d'un chef, c'est un chef généreux, c'est un chef charismatique, bien sûr, mais c'est un dirigeant de cœur qui est au service de ceux qui dirigent et au service de la charge dont il est revêtu. L'autorité est le lien fondamental de toute société humaine, et l'autorité est exercée par le chef qui doit l'incarner. Et le chef n'agit que pour le bien commun. Il n'agit pas pour lui-même. Vous voyez ? Et le problème de nos autorités aujourd'hui, c'est qu'en politique, ils agissent aussi pour eux. On ne peut pas dire qu'ils agissent que pour eux, mais beaucoup pour eux, et c'est ce qu'on appelle la corruption. Non ? Ça vous choque ? Vous croyez que c'est qu'en Afrique, la corruption ? Bah, malheureusement. Voilà. La corruption, c'est se servir au passage des largesses de la charge dont on peut disposer. Le bon chef, une autre citation de Pierre de Villiers, un bon chef est un diffuseur de confiance et un absorbeur d'inquiétude. Ça vous dit ça ? Un diffuseur de confiance et un absorbeur d'inquiétude. Il dit dans son livre, par exemple, que lui, voilà, en tant que général, il avait des missions difficiles, il avait un tas de conseils, et des conseils qui allaient en contradiction les uns avec les autres. Il y en a un qui conseillait ça, l'autre qui conseillait ça. Qu'est-ce qu'il devait faire ? Il ne devait pas dire « toi, t'es mauvais, toi, t'es bon ». Ça, c'est du dualisme. Il devait donner confiance à ceux qui le conseillaient, mais lui, en conscience, devait prendre une décision. Ça lui revenait en décision. Et le mieux, c'est de réussir dans la décision qu'on prenait, mais ce n'est pas toujours le cas. Hein. Mais du coup, vous donnez confiance, et la vraie confiance, c'est quand vous réussissez in fine dans la décision que vous avez prise. Ça, c'est encore mieux. Okay. Donc, vous infusez la confiance. Mais vous prenez toutes les inquiétudes, parce que est-ce que je prends la bonne décision ? Est-ce que, vous voyez, vous à votre niveau, des fois vous dites « Ah, est-ce que je prends la bonne décision ?» Mais quand vous êtes au sommet d'une certaine situation, hein, je regarde aussi Colette qui devait être dans certaines situations délicates, il faut plonger. Hein. Le chef décide, il décide. Mais il doit, en même temps, s'il est un bon chef, eh bien, diffuser de la confiance et absorber l'inquiétude. Il faut revenir à l'origine donc de ce mot autoritas qui veut dire élever vers. C'est élever. Un chef, il élève l'autre. Il l'abaisse pas. Le petit chef, il abaisse. Le petit chef, c'est le top down. Tu dois faire ça. Tu dois faire ça. Tu dois faire. Tu as quoi ? Tu as mon père, il était comment dirais-je ? Bon, le premier, je ne sais pas comment on appelle ça, tireur d'élite en France, et dans les tirs à la carabine et tout ça, je ne sais pas, 300 mètres. Voilà. Ben, quand il est venu à l'armée, il a dit « Toi, tu seras la Croix-Rouge. » Alors qu'on avait besoin quand même de tireurs d'élite, non ? Enfin, je ne sais pas. Si on veut gagner une guerre, il faut quand même bien tirer. Enfin, vous voyez, on prend des décisions, il ne s'est pas plaint du tout d'être à la Croix-Rouge. Mais c'est juste pour montrer que toi, tu fais les patates, toi, tu fais ceci. Vous voyez, c'est le petit chef, le caporal, là, qui, voilà, il a des galons, et puis voilà, il cherche à être autoritaire. Hein. Et ça casse l'autorité. Voilà. Je vois que mon temps est écoulé, donc je vais arrêter. Voilà, j'avais quelques extraits de ce livre, mais je vous invite à le lire, qui peut vous donner des inputs, des entrées sur la question de l'autorité. Parce qu'il est vraiment, à quelque chose près, il dirait qu'il croit en Dieu, je ne sais pas quelle est sa position, c'est qu'il est d'origine catholique, mais en tout cas, bon, il manifeste à aucun moment sa croyance en Dieu, mais on peut vraiment, quand on lit ça, le comparer aux évangiles, et on voit vraiment qu'il y a cette même approche du service à l'autre. Et c'est ainsi que nous devons être dans cette ligne hiérarchique d'autorité. Il y a une ligne hiérarchique qui commence par Dieu, Et ensuite, après, il y a une ligne. Mais attention, c'est pas le pape qui est dans la ligne. C'est le mari au niveau de la mariage, mari et femme. Et dans l'Église, c'est les cinq ministères, ministère don. Après Christ, c'est le ministère don. Et après, c'est les anciens qui doivent prendre charge, prendre soin de l'administration de l'Église. Eux, ils ont autorité sur les lois de l'Église. Hein, c'est ce qui est marqué là-bas. Et ensuite, après, il y a les ministères de fonctionnement qui, eux, ont des charges dans chacun de leurs ministères. Et ceux-ci ont bénéfice de l'Église. Donc, on est dans une ligne hiérarchique. Je sais que Sheena, quand je lui ai montré ça, il dit, j'ai jamais eu d'Église où les choses sont aussi claires. Je dis, oui, ça a pris du temps. Ça a pris du temps, ça a pris 20 ans, avec Ricardo qui était très systématique, etc. Mais vous êtes dans une église où les choses sont claires. Ce qui fait que les crises, il peut y en avoir, mais pas les crises d'autorité. Ça, je peux vous garantir. Parce que j'en ai soupé pendant 10 ans. Il dit, plus jamais je serai pasteur d'une église où il y a une crise d'autorité. Parce que l'autorité, c'est Dieu qui la donne. Ou la donne pas. Et s'il la donne, il faut l'exercer. Mais dans l'esprit de service, dans l'esprit tel que Dieu l'a prévu, tel que Jésus l'a enseigné à ses disciples, être serviteur des autres. Okay ? Mais l'autorité ne se remet pas en question, surtout si elle est donnée par Dieu. Sinon, c'est un sacrilège de mettre Dieu en cause. Okay ? Et donc, ça, c'est des principes que j'ai appris à mon corps défendant. Je n'ai jamais été prédisposé à ça. Mais je vois maintenant, avec Pierre de Villiers et d'autres, que appliquer même dans le monde, ça structure la société. Ça structure la société. Voyez-vous, si Colette, par exemple, son poste de consul n'existait pas, chacun veut des passe-droits, des machins, veut faire, etc. Bon, si quelqu'un ne bat pas la mesure, c'est du n'importe quoi. Hein. Les terroristes peuvent entrer, peuvent sortir. Voilà, chacun a des fonctions. Et il y a des fonctions politiques qui, d'ailleurs dit, sont plus élevées que celles de l'armée. Voyez-vous, il dit la fonction politique, c'est avant. C'est le politique qui décide des directions. Et l'armée, c'est un moyen. Il donne les moyens pour le faire. Voyez. Donc, il est dans une structure hiérarchique, et lui-même dit. Et c'est pour ça, d'ailleurs, il a donné sa démission. Quand Macron lui a dit, tu auras 200 millions de moins, je crois, il a dit, je ne peux plus faire. Voilà, c'est tout. Il ne s'est pas révolté, il n'a rien dit. Les gens qui l'interrogent sur Macron, il dit, j'ai rien à dire. J'ai pris ma décision, c'est tout. Parce que je considère que j'ai une charge et je ne peux plus la remplir. Puisque la mission n'est plus tenable dans ces conditions. C'est tout, vous voyez. Donc, ou vous êtes d'accord et vous continuez, ou vous n'êtes pas d'accord, vous démissionnez. Mais il n'y a pas de révolte. La révolte n'existe pas. C'est-à-dire qu'on prend la charge ou on ne la prend pas. Mais une fois qu'on la prend, on l'exerce. Alors, Seigneur, nous te prions afin que la notion d'autorité, qui est tout à fait contraire à l'autoritarisme, puisse être partagé dans cette communauté afin que, Seigneur, tous les éléments de révolte qu'il peut y avoir soient abattus, soient neutralisés, parce qu'ils n'ont rien à voir dans la structure de l'Église, surtout qui doit être modèle en termes d'autorité, Seigneur. Alors merci de nous faire grâce afin que à chaque moment, à chaque période, à chaque instant, à chaque génération, ces choses soient comprises et validées et exercées afin qu'elles puissent porter du fruit et que l'Église soit en paix. C'est ce que tu as demandé à tes disciples, que l'Église soit en paix et que, Seigneur, elle puisse évoluer et faire la mission à laquelle elle est appelée, être témoin à Jérusalem, en Samarie et tout à l'extrémité du monde. Merci, Seigneur, de nous donner cette grâce, de nous l'avoir donnée pendant ces 20 ans et de continuer à la donner à la génération qui vient. Seigneur, merci, parce que c'est grâce en grande partie à la question de l'autorité. Nous t'en remercions au nom de Jésus. Amen.